Toulouse et Montpellier basculent cette nuit en zone d'alerte maximale. Il faut fermer les bars et renforcer le protocole sanitaire dans les restaurants. Des mesures appliquées bon gré mal gré. Une étudiante sur 20 victime de viol au cours de ses études. La plupart des violences sexuelles se déroulent pendant les soirées étudiantes ou les week-ends d'intégration. Explication d'Arnaud Rozac. Le Sénat américain auditionne Amy Coney Barrett, la juge nommée par Donald Trump à la Cour suprême. L'occasion pour les démocrates de rappeler leur opposition à cette nomination. Nous irons à Washington. Le changement climatique est le principal responsable du doublement des catastrophes naturelles en 20 ans. Sans relance verte, alerte les Nations Unies, nous ne ferons qu'accroître l'urgence climatique. Nous ferons un état des lieux avec Véronique Reberot. La réalité de la deuxième vague est là, constate Jean Castex. Le Premier ministre appelle à la mobilisation de tous et de toutes face au coronavirus. Il ne peut plus y avoir de relâchement, prévient le chef du gouvernement, qui n'exclut pas l'hypothèse de reconfinement localisé si nécessaire pour ralentir l'épidémie de Covid-19. Dans l'immédiat, il faut en passer par de nouvelles restrictions sanitaires dans les villes qui basculent en zone d'alerte maximale. Ce sera le cas, à minuit, des métropoles de Toulouse et Montpellier. Cafés et bars doivent fermer et les restaurants vont se soumettre à un protocole plus strict. Les professionnels se plient à ces mesures avec une grande amertume. Florian Leroux, responsable de la brasserie Le Yams à Montpellier, se demande s'il ne fait pas les frais d'une mauvaise gestion estivale de l'épidémie.
Est-ce que cet été, ils ont voulu poser aucune mesure pour dire, par exemple, aux patrons ou aux employés, c'est bon, on vous laisse pour le moment tranquille pendant l'été, les touristes dépensent, viennent consommer, viennent faire tourner un petit peu l'économie. Est-ce que maintenant, ils veulent pas mettre plus de mesures comparé à cet été? Moi, je pense que cet été, il y a des mesures qui auraient dû être prises pour fluidifier un peu tous ces touristes. On va pas se plaindre non plus, le patron non plus. Cet été, on a eu énormément de personnes, beaucoup plus que les autres années. Ça a été une saison très bénéfique et ça a pu un petit peu pallier à ce manque qu'il y a eu pendant le confinement. Mais voilà, est-ce que maintenant, on n'est pas en train de payer le très bon été? Si maintenant on doit fermer complètement, je pense que ça valait pas le coup.
Florent Leroux au micro de Clara Guichon à Montpellier. Parmi les instruments de la lutte contre l'épidémie, l'application Stop Covid qui permet de retrouver plus facilement les cas contacts quand une personne s'avère positive au coronavirus. Une appli efficace à condition d'être largement téléchargée, ce qui n'a pas été le cas en France. 2,5 millions d'installations seulement sur nos smartphones depuis juin. Une nouvelle version va donc être lancée le 22 octobre avec l'espoir de faire un peu mieux cette fois. Bonsoir Maxime Tellier.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
En Allemagne et en Grande-Bretagne, les équivalents locaux de Stop Covid ont été téléchargés 18 et 16 millions de fois. Pourquoi est-ce que ça a marché là-bas et pas chez nous?
Alors paradoxalement, parce que nos voisins ont été sans doute moins ambitieux que nous sur un plan technique, la France a fait le choix d'un système souverain développé par des entreprises françaises avec des données centralisées, c'est-à-dire non stockées sur votre téléphone. Alors c'est louable, hein, mais les Anglais et les Allemands, eux, après avoir hésité, ont choisi les protocoles d'Apple et Google décentralisés. Les données restent sur votre téléphone avec un gros avantage. Ce système a été choisi par la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. Il est donc interopérable. La France en est exclue. Sinon, c'est la même chose, Aurélie. Ces applis fonctionnent avec la technologie Bluetooth et reposent sur la base du volontariat.
Et comment explique-t-on l'engouement des Allemands et des Britanniques pour ces applications, Maxime?
Alors, pour l'Allemagne, l'application a été lancée en même temps qu'en France en juin dernier. C'est donc le même timing, mais elle a été téléchargée 7 fois plus que chez nous, 18 millions de fois, et surtout, il y a encore 15 millions d'utilisateurs actifs. Quand en France, 1 million de personnes l'ont désinstallée. Angela Merkel l'a aussi défendue dès sa sortie.
Nous devons tous respecter les règles, distanciation sociale, port du masque dans les lieux publics et hygiène des mains. Depuis la semaine dernière, l'application CoronaWarm App vient s'ajouter à ces mesures. Je vous enjoins de l'utiliser.
Bitte nutzen Sie sie.
Mais voilà, en France, la parole politique souffre d'un manque de confiance. C'est le constat du secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui appelle donc à l'aide les cafetiers, hôteliers, restaurateurs pour qu'ils défendent Stop Covid. Stratégie justement choisie par les Anglais. Outre-Manche, l'appli sert à s'identifier dans les restaurants et dans les pubs grâce à un QR code beaucoup plus fiable que le Bluetooth.
La nouvelle application du ministère de la Santé est le meilleur moyen de savoir si vous courez un risque. Plus vite vous savez, plus vite vous pouvez prévenir et protéger vos proches. Téléchargez-la aujourd'hui.
Et dernier point, en Angleterre, le timing entre guillemets est meilleur. L'appli a été lancée fin septembre, en plein début de deuxième vague. L'inquiétude est plus grande. Résultat, 16 millions de téléchargements. C'est l'application la plus rapidement téléchargée de l'histoire du pays.
Maxime Tellier, justement, c'est le branle-bas combat au Royaume-Uni, quatrième pays le plus touché au monde avec plus de 42 800 morts. Pour aider le système de santé à faire face à la résurgence de l'épidémie, trois hôpitaux de campagne qui avaient été mis en place au printemps vont être réactivés. Et comme le patchwork de restrictions locales en Angleterre était difficilement lisible, le système d'alerte est revu. Le Premier ministre Boris Johnson l'a présenté cet après-midi devant la Chambre des communes. La correspondance de Richard Plaras à Londres.
Moyen, élevé et très élevé. Voici les trois niveaux qui couvrent toute l'Angleterre désormais. Le premier, le moins contraignant, avec les règles qui étaient déjà en vigueur. Interdiction de se rassembler à plus de 6 personnes à l'extérieur ou à l'intérieur et fermeture des restaurants et des bars après 22 heures. La majeure partie du pays se situe dans ce niveau moyen. Le deuxième échelon concerne essentiellement le nord du pays où les taux d'infection s'emballent depuis plusieurs semaines déjà. Là, en plus des interdictions de base, s'ajoute la contrainte de ne pas se réunir avec des personnes étrangères à son foyer. Enfin, le troisième niveau, le plus rigoureux, concerne en fait Liverpool et ses environs, avec des mesures encore plus contraignantes dévoilées par Boris Johnson. Le niveau très élevé s'appliquera là où les taux de transmission augmentent le plus rapidement, là où les services de santé pourraient se retrouver sous une pression insupportable si nous ne décidions pas de restrictions supplémentaires. Dans ces zones, le gouvernement interdit toute mixité sociale, à l'intérieur comme à l'extérieur, et la fermeture, je suis désolé de l'annoncer, des pubs et des bars. Après de longues discussions avec les élus locaux, inquiets pour l'emploi et l'économie, les restaurants resteront ouverts partout. Boris Johnson précise que le confinement général n'est toujours pas la bonne solution à ses yeux. Pour s'y retrouver, les Anglais disposent d'un moteur de recherche sur le site du gouvernement. Il suffit d'entrer son code postal pour savoir quelles sont les restrictions dans sa zone.
En France, le gouvernement veut donner un coup d'accélérateur au marché des voitures électriques. Il va mettre en place une aide de 1 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. Et pour faciliter l'utilisation de ces voitures, il compte accélérer le déploiement des bornes de recharge sur tout le territoire. Écoutez la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
Dès l'an prochain, nous créerons un bonus de 1 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique d'occasion pour permettre davantage de foyers d'accéder à ce type de motorisation. Ces mesures ont vocation à accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur automobile, mais nous ne devons pas négliger dans le même temps l'objectif de réduction des émissions de particules pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons, qui est un impératif de santé publique. Et c'est pourquoi je vous annonce qu'à compter du 1er janvier prochain, les véhicules diesel ne seront plus éligibles à la prime à la conversion, comme je m'y étais engagée. C'est une question de responsabilité et de cohérence pour ne plus encourager l'achat de véhicules qui émettent le plus de particules fines et en particulier les oxydes d'azote.
Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Inondations, tempêtes, les catastrophes naturelles ont doublé en 20 ans, tuant plus d'1,2 million de personnes dans le monde. Et le principal responsable de cette accélération, c'est le changement climatique. Un rapport du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes dresse un état des lieux préoccupant, Véronique Rebérotte, et l'Asie est le continent le plus touché.
8 des 10 pays les plus touchés se trouvent donc en Asie, Chine en tête. Il y a aussi l'Indonésie et les Philippines victimes d'inondations meurtrières. Des pays asiatiques où la population est nombreuse à habiter dans des zones à risque. Le nombre d'inondations a donc doublé ces 20 dernières années. Le nombre de tempêtes a aussi fortement augmenté, notamment sur le continent américain. Aux catastrophes les plus courantes, inondations et tempêtes, il faut ajouter les incendies, les températures extrêmes et des épisodes aigus de sécheresse qui causent aussi des ravages. 1 200 000 morts en 20 ans, vous l'avez dit, 4,2 milliards de personnes affectées et près de 3 milliards de dollars de pertes économiques pendant les deux dernières décennies. Les années 2004, 2008 et 2010 ont été les plus dévastatrices avec plus de 200 000 morts à chacune de ces années. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien a été le plus meurtrier avec plus de 220 000 victimes. Si le Covid-19 qui touche la planète entière est terrible, la crise climatique qui s'emballe peut être encore pire, préviennent les Nations Unies. De plus en plus de personnes subissent les effets de cette situation d'urgence climatique. L'ONU appelle les gouvernements à investir dans des systèmes d'alerte précoce et à mettre en place des stratégies de réduction du risque. L'agence onusienne, qui décrit, je cite, « des humains sciemment destructeurs », insiste surtout sur le fait que sans relance verte, nous ne ferons qu'accroître la crise climatique. Pour la décennie à venir, 2020-2030, l'ONU estime que le pire problème seront les vagues de chaleur.
Véronique Robérot, et eux aussi s'alertent du réchauffement climatique. La plus grande expérience scientifique jamais menée au pôle Nord a regagné son port d'attache ce matin en Allemagne, après un an d'exploration de l'Arctique. Et les scientifiques n'ont pu que constater l'accélération de la fonte des glaces, Nathalie Versieux.
Pour les scientifiques de retour, le travail ne fait que commencer. Il leur faudra au moins 2 ans pour analyser les 150 terabytes de données qu'ils ont collectées dans l'Arctique. Pendant 10 mois, ils ont mesuré l'atmosphère, la qualité de la glace, l'océan, l'écosystème, la biogéochimie de 400 mètres sous la mer à 35 000 mètres d'altitude, à l'aide de ballons, de drones, de robots sous-marins, de rayons laser, de capteurs électromagnétiques ou de satellites. L'objectif est de mettre au point des modèles de prédiction du climat pour déterminer à quoi ressembleront dans 20, 50 ou 100 ans les vagues de canicule, les pluies diluviennes ou les tempêtes. Le brise-glace Polar Stern était parti de Norvège en septembre 2019. Le navire s'était laissé prendre dans les glaces et dérivé au centre d'une banquise à moins 42,3 degrés et dans le noir complet en hiver, jusqu'au crack assourdissant de fin juillet qui a mis fin à l'expérience lorsque la banquise s'est brisée en 1000 morceaux. L'Arctique se meurt. Si on continue à ce rythme, on n'aura bientôt plus de glace en été, déplore le chef de l'expédition Marcus Rex.
Nathalie Versieux à Berlin. Une étudiante sur 20 victime de viol pendant ses études, une étudiante sur 10 victime d'une agression sexuelle. Ces chiffres font froid dans le dos. Ils proviennent d'une étude publiée par l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. En tout, plus de 10 000 étudiants ont été sollicités à travers la France. 3/4 sont des femmes. Bonsoir Arnaud Rozac.
Bonsoir Aurélie.
Il faut préciser que selon cette étude, la plupart des agressions physiques sont commises hors du campus.
Oui Aurélie, selon le rapport, 56% des viols relatés se sont produits pendant les soirées étudiantes ou lors des fameux way, les week-ends d'intégration. Les victimes évoquent très souvent un agresseur qu'elles connaissent en amont, par exemple un ami ou un collègue de promotion. Et parmi les principales causes de ces violences, 4 facteurs reviennent très souvent. La consommation excessive d'alcool, l'impunité pour les agresseurs, l'effet de groupe et le manque d'éducation. Iris Maréchal est la présidente de l'Observatoire à l'origine de cette étude.
Majoritairement, ce sont des étudiants qui commettent les actes sur des étudiantes. Et le contexte, ce qui remonte beaucoup, c'est des contextes alcoolisés, des contextes de soirée. C'était un besoin pour les membres de l'association d'avoir des chiffres objectifs sur est-ce que c'est seulement nous qui avons cette impression-là ou est-ce que c'est bien un problème global. Et nos chiffres montrent que c'est pas seulement nous qui imaginons la chose, quoi.
Beaucoup de victimes n'osent pas en parler. La peur d'avoir une réputation entachée, la peur de ne pas être crue ou tout simplement le sentiment que ça ne servirait à rien. Selon Iris Maréchal, les universités doivent plus s'engager.
On propose également des solutions pour remédier au problème et ces solutions viennent des étudiants qui ont répondu au questionnaire. Ils nous parlent notamment de campagnes de sensibilisation sur la question menées par les établissements et par les associations sur le sujet. On nous parle également de mise en place d'un accompagnement juridique pour les victimes et de campagnes de prévention aux violences sexuelles et sexistes en amont des soirées et des week-ends d'intégration.
Preuve de ce manque de sensibilisation, 1/4 des personnes sondées ne savent pas s'il existe dans leur établissement des structures qui prennent en charge les victimes de violences sexuelles et sexistes.
Arnaud Rozac, 7e semaine du procès des attentats de janvier 2015. Aujourd'hui, la cour d'assises spéciale a interrogé Nezar Pastor Al-Watik. Comme tous les accusés de ce procès, il réfute les accusations d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il reconnaît seulement avoir touché les armes d'Amidi Koulibaly, l'auteur de la prise d'otage de l'hypercacher et du meurtre de la policière Clarissa Jean-Philippe. Vous avez suivi cette journée d'audience, Florence Thurme.
Il a 35 ans, mais l'air d'un adolescent, imberbe et cheveux noirs très courts, carrure fluette dans un t-shirt à manches longues, élocution facile, avec la même expression d'étonnement qui s'affiche à chaque question. Et les interrogations sont nombreuses le concernant, à commencer par les empreintes ADN décelées, l'une à l'intérieur d'un gant retrouvé à l'hypercacher, il affirme ne pas comprendre, les deux autres sur un pistolet Tokarev et un revolver, découvert dans l'appartement conspiratif d'Amédi Koulibaly à Gentilly. Amédi Koulibaly, ancien compagnon de détention à Villepin, enceinte. On se donnait des petits challenges. Tu connais telle sourate ? Mais il ne m'a jamais parlé de haine anti-juif, surtout que ma sœur est juive. Amédi Coulibaly qui lui présente sa future femme. Mariage religieux malgré les réticences de sa mère. Il est hors de question que tu épouses une ninja. Échec rapide de l'union, elle était trop religieuse pour moi, déclare Nézar Pastor Alouatique. Je ne peux pas vivre sans télé. Les armes, il explique les avoir découvertes par hasard dans le coffre de la Clio avec laquelle le tueur de l'hypercachère est venu le chercher le 5 janvier, 4 jours avant la prise d'otage. Je les ai touchées machinalement, je les ai reposées sans rien dire. Explication peu convaincante aux yeux de l'accusation, d'autant moins qu'elles ont fluctué au cours de l'instruction. Aujourd'hui, il évoque pour la première fois le fait que le tueur de l'hypercachère est venu chez lui récupérer les clés de la fameuse Clio le 6 au soir. Elle était encore devant chez moi le jour de mon interpellation, déclare-t-il. Après, ce qu'elle est devenue, je ne peux pas vous dire. La voiture n'a jamais été retrouvée, pas plus que l'ordinateur revendu le lendemain des attentats. Je sais que je ne me suis pas très bien expliqué, lâche l'accusé, mais j'avais peur. Tant pis pour ma gueule, il risque 20 ans de réclusion criminelle.
Florence Turm avec Benjamin Thuot à la technique et on retrouve aussi vos chroniques judiciaires quotidiennes, Florence, sur franceculture.fr. Pour la troisième fois, l'Irlande refuse d'extrader Ian Bailey vers la France. Le Britannique avait été condamné en mai 2019 en son absence par la Cour d'assises de Paris qui lui a délivré un mandat d'arrêt contre lui pour le meurtre de Sophie Toscan-Duplantier. La productrice française avait été assassinée en Irlande le 23 décembre 1996. Ian Bailey, 63 ans aujourd'hui, clame toujours son innocence. Au lendemain de nouvelles manifestations réprimées par le régime biélorusse, l'Union européenne annonce qu'elle va sanctionner Alexandre Loukachenko. Réunis à Luxembourg, les ministres européens des Affaires étrangères ont finalement réussi à se mettre d'accord. Ces sanctions avaient été définies dès la fin du mois d'août, mais Chypre les repoussait tant que les 27 n'agissaient pas à l'encontre de la Turquie. Et le nom du président biélorusse ne figurait pas dans la liste initiale des personnalités frappées par les sanctions européennes, Pierre Benazet.
Effectivement, et aujourd'hui, les ministres ont décidé que si la situation en Biélorussie ne s'améliorait pas, l'Union européenne était désormais prête à imposer des sanctions supplémentaires à l'encontre d'entités officielles, à l'encontre de dirigeants et à l'encontre d'Alexandre Loukachenko lui-même. C'est le texte adopté ce lundi par les ministres affaires étrangères, texte dans lequel les 27 affirment à nouveau que l'élection présidentielle biélorusse du 9 août n'était ni libre ni équitable et qu'Alexandre Loukachenko n'a aucune légitimité démocratique. Depuis le sommet européen du 2 octobre, 40 Biélorusses identifiés comme responsables de la répression et de l'intimidation de manifestants pacifiques sont frappés par les sanctions classiques, à savoir une interdiction de visa pour la zone Schengen, le gel de leurs avoirs en Europe, des sanctions qui devraient donc frapper à son tour Alexandre Loukachenko. Il ne reste plus en fait qu'à finaliser la décision juridique pour que ces nouvelles sanctions puissent entrer en vigueur. Elles pourraient frapper aussi des membres de la famille Loukachenko et des juges. Alors effectivement, au départ, les Européens avaient décidé de ne pas viser le président dans l'espoir de l'amener à accepter une médiation internationale et un dialogue avec l'opposition. Mais pour les Européens, aucune amélioration s'est produite puisque les violences policières et les arrestations se poursuivent.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Et l'Union européenne envisage aussi des sanctions contre la Russie pour l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. La juge Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump à la Cour suprême, doit maintenant obtenir l'aval du Sénat américain. La magistrate, très bien vue des milieux chrétiens traditionnalistes, est donc auditionnée aujourd'hui. Alors il y a peu de doutes sur l'issue de cette audition, malgré l'opposition des démocrates. Les sénateurs démocrates qui insistent beaucoup sur la symbolique de cette nomination, Gregory Phillips.
Oui, à commencer par la sénatrice Dianne Feinstein, qui a été parmi les premières à prendre la parole ce matin. Vous serez peut-être appelée, dit-elle, à remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg, qui a siégé pendant 27 ans à la Cour suprême. Et les enjeux sont énormes pour les citoyens américains, le droit à l'avortement, mais aussi Obamacare. Et ce processus de nomination intervient en pleine élection, et alors que les Américains ont déjà commencé à voter dans 40 États, rappelle-t-elle. La juge Amy Coney Barrett prendra pour la première fois la parole cet après-midi dans son propos liminaire. Elle devrait défendre le fait qu'elle a toujours différencié sa foi, ses convictions et sa mission de magistrate. Elle, dont on sait qu'elle est une fervente catholique anti-avortement, la sénatrice Kamala Harris, qui siège aussi dans cette commission, a toutefois promis que Amy Coney Barrett ne serait pas attaquée sur ses croyances religieuses. Ces auditions vont durer 4 jours. La magistrate passera au gris des sénateurs à partir de demain. Le républicain Lindsey Graham, qui dirige la commission, espère un vote le 22 octobre et peut-être une validation par le Sénat de cette nomination avant le 3 novembre, avant la présidentielle. A priori, les démocrates minoritaires au Sénat n'ont quasiment aucune chance de pouvoir s'y opposer.
Grégory Phillips en direct de Washington. Et puis Donald Trump met les bouchées doubles pour rattraper son retard sur Joe Biden dans la campagne présidentielle. En 3 jours, le président américain va se rendre dans 3 États clés, la Floride, la Pennsylvanie et l'Iowa. Donald Trump qui affirme être pleinement remis et même immunisé contre le Covid-19. Météo France nous annonce une journée très pluvieuse demain sur la moitié ouest avec des averses plus marquées l'après-midi. Pluie aussi l'après-midi sur les Hauts-de-France et dans l'est. Du soleil en revanche sur le sud-est. Les températures minimales iront de 0 à 11 degrés. Les maximales atteindront 10 à 14 degrés sur la moitié nord, le massif central et Rhône-Alpes. 15 à 20 du sud-ouest à la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. C'est le grand